on tombe pas sous emprise comme ça, ce qu'il y a de noir est dissimulé au début. Puis on s'accroche des fois, même quand on vit des choses dures, parce qu'il y a des belles choses dans toute relation, j'imagine, qui vous fait accepter des choses inacceptables. L'amour, on le confond avec la fusion, avec l'effacement de soi. C'est pas du tout de l'amour. J'avais pas accès à tous mes sens. J'avais pas accès à l'intégralité de mon être, en fait.
Amélie Beaucourt.
C'est peut-être le mot le plus hideux de la langue française, de toutes les langues d'ailleurs. Un mot qu'on aimerait voir bannir des dictionnaires. Violence. Et toutes ces traductions, toutes ces déclinaisons. Un mot qu'on fait rimer à tort avec amour, avec passion. Mais non, ça ne rime pas, ce ne sont pas des synonymes, ce ne sont pas des mots amis. Mais ce mot « violence », il faut pourtant apprendre à l'exprimer quand on en est témoin, quand on en est victime. C'est ce que vont tenter de faire sur scène les deux personnages de la pièce, mise en scène par Jennifer Lesage-David, qui est notre invitée. Bonjour.
Bonjour.
Soan, 50 ans, reçoit un message vidéo préoccupant de son amie Béatrice, 45 ans. On la voit dans la rue, le soir, en larmes. Soan la rappelle et commence alors une série de conversations entre vos deux comédiennes, sourdes, comme les deux femmes qu'elles incarnent. Elles s'expriment donc en langue des signes française. Ce mot « violence », vous, Jennifer Lesage-David, qu'est-ce qu'il vous inspire ?
Je pense que il est très présent de toute façon dans la société à différents endroits. À partir du moment où il y a des relations de pouvoir qui s'inscrivent entre les êtres, le pouvoir des classes sur les autres, le pouvoir des origines sociales, des couleurs de peau. Et dès la naissance, en fait, il y a une distinction qui est faite entre les genres et j'ai toujours ressenti fortement cette domination du genre masculin sur le genre féminin. Et pour moi, c'est le berceau de ce rapport de pouvoir et qui permet de laisser la violence s'inscrire dans ce rapport de domination. Et du coup, c'est pour ça que le sujet de la femme, de la place de la femme, me touche au plus haut point, puisque j'ai le sentiment que c'est le berceau des possibles violences, de la naissance des différentes formes de violence.
Violence en français écrit et en anglais écrit, c'est le même mot. Bon, ça ne se prononce pas de la même manière. Est-ce que en langue des signes française et en langue des signes anglaise, violence, c'est la même chose ?
Non. Non, chaque langue des signes est nourrie par la culture de son pays. Donc toutes les langues des signes ont ce point commun qu'elles reposent sur la même construction syntaxique. Mais après, les lexiques sont nourris par les cultures des différents pays. Et c'est en ça que les langues des signes sont différentes.
Comment ça se signe en LSF ?
En langue des signes, c'est ça. Et en signes internationaux, c'est ça.
Béatrice et Soane ont aussi deux autres interprètes, celles qui sont leur voix off. Comment est-ce que vous avez réfléchi à toute cette mise en scène ? Donc, quatre comédiennes qui incarnent deux personnages.
Eh bien, je suis très engagée pour la représentativité des artistes sourds sur scène. Je suis engagée pour la reconnaissance de la langue des signes. Et sa diffusion et sa promotion. Et du coup, c'était important pour moi que la langue des signes soit la langue de plateau et dans les créations bilingues, souvent, il y a les deux langues qui sont au plateau. C'est une mixité au plateau. Mais du coup, le regard peut vaquer de l'un à l'autre.
Et moi,
je
perdre.
Voilà, et moi je voulais que le regard soit directement sur les corps sourds, sur les corps de ces deux personnages, qu'on soit tout de suite avec elles. Donc c'est pour ça que sur scène, c'est Emmanuel Laborie et Isabelle Loiseux, le spectacle est joué en langue des signes, et les voix off ne sont pas à vue, mais elles sont complètement, émotionnellement soudées aux personnages qui sont sur scène. Elles sont entièrement vêtues de noir et participent aussi à la manipulation sur scène, notamment des chaises. Donc elles ont une présence discrète dans les transitions. D'ailleurs, le public ne sait pas forcément que ce sont les voix. Mais voilà, c'était important pour moi que la langue des signes et les comédiennes sourdes soient au premier plan.
On assiste tout au long du spectacle à plusieurs conversations entre les deux femmes. L'une tente d'exprimer, l'autre tente de comprendre et le spectateur assiste impuissant à la mise en place des mécanismes d'emprise décrits par Béatrice. On entend dans cette scène comme la petite voix dans sa tête, voix qui est projetée aussi en signe à l'écran sur de grands tulles qui tombent sur la scène.
Je le déçois de plus en plus. Je le déçois de plus en plus. Un coup. Il dit que je comprends rien. Il dit que je comprends rien. Que je ne sais pas m'habiller. Que je ne sais pas m'habiller. L'autre jour, il m'a dit que ma bouffe est dégueulasse. Que je le fatigue. Que je le fatigue. Je suis tout le temps à côté de la plaque. À côté de la plaque. Je sais plus quoi faire pour lui plaire. Pour lui plaire. Au départ, tout était parfait. Tout est devenu moche. Surtout quand il me regarde de travers. J'ai l'impression qu'il me méprise. Je m'en veux tellement.
Sur scène, Jennifer Lesage-David, cette petite voix, elle est visualisable sur les grands tulles qui tombent. Comment est-ce que vous avez réfléchi à ce qui allait se voir, ce qui allait être projeté à ce moment-là? Le jeu de lumière.
Oui, il y a plusieurs niveaux dans ce spectacle. Déjà, il y a le fait que ce soit une conversation en distanciel. Donc, je mets en scène la conversation par le truchement d'un écran. Voilà. Ensuite, j'ai fait aussi, j'ai un parti pris important qui est que les comédiennes sourdes ne se regardent pas pendant la première moitié du spectacle, parce que dans la culture sourde, la place du regard est essentielle. C'est une culture du visuel et c'est une langue gestuelle, corporelle en trois dimensions, donc qui passe par les yeux. Et en faisant en sorte qu'elles ne se regardent pas, déjà je les ai challengées à cet endroit-là, mais le but c'était de questionner l'écoute, comment on reçoit une parole de victime, comment on l'aide, comment on l'écoute. Et c'est cette qualité d'écoute que j'ai mis en question. Et à partir de la moitié du spectacle, enfin, elles vont pouvoir se regarder puisqu'il y a des déclics qui s'opèrent et il y a une compréhension qui arrive. Ensuite, il y a des vidéos qui sont plus oniriques puisque je voulais cette approche métaphorique.
On voit une pieuvre.
Oui, voilà, je voulais m'adresser aux émotions, aux différentes réceptions du public et tendre vers l'universel, justement. Ça symbolise l'emprise et c'est aussi une manière de s'adresser aux émotions et que le discours, quand les comédiennes se regardent elles-mêmes, il y a aussi cette dissociation, ce phénomène de dissociation qu'on peut avoir par protection quand on est victime.
Jennifer Lesage-David, comment justement est-ce que Sohan, l'amie qui est appelée par Béatrice, va accueillir dans un premier temps la détresse de son amie?
L'accouchement de la parole est...
Douloureux.
Oui, et douloureuse, puisque Béatrice Déjà,
elle refuse d'en parler.
Oui,
au départ.
Elle a des états de sidération, des états de choc. Elle est dans le déni, elle est dans la honte. Elle a des mécanismes de protection, de fuite, etc. Donc c'est pas clair tout de suite. Mais elle dit quand même, elle donne des indices. Et Swann, ces indices, elle les voit pas. Elle les prend au premier degré. Et du coup, elle a des réactions de bonnes copines, de bonnes conseillères. Et Swann elle-même est confrontée à un déni personnel également. Donc voilà, c'est à la fois comment justement on est capable d'écouter et de recevoir cette parole et aussi quel écho elle a en nous-mêmes par rapport à notre propre vécu.
Le déni, il commence par des rapprochements qu'on fait facilement entre la violence dans le couple et puis les disputes. C'est des disputes d'amoureux, c'est pas grave, dit Swann, ça arrive à tout le monde. Et puis, on a nous aussi, spectateurs, des déclics au fur et à mesure de la pièce. Quant au titre, tellement sympa. C'est vrai que ça peut paraître surprenant d'appeler une pièce quand on connaît le sujet de cette façon. Mais c'est dit à plusieurs reprises, mais t'es sûr qu'il est comme ça? Pourtant, il avait l'air tellement gentil, ton compagnon. C'est des choses qu'on entend encore trop souvent.
Ah bah oui, bien sûr. La violence, elle n'est pas inscrite sur les visages. Hein. Voilà, on peut être très sympathique en société et un monstre dans l'intimité. C'est ça que ça raconte aussi, c'est cette complexité-là.
Jennifer Lesage-David, on continue notre discussion dans un instant, mais juste avant, Réparer, c'est signé The Doug sur RFI.
J'aime quand tu parles. Tu me dis que tu t'aimes passer. Si tu casses, je viendrai te réparer. J'aime quand on danse et que l'on finit allongé. Tu me dis ne t'approche pas lorsque tu pleures. Bientôt tu retrouveras ta chambre, celle où j'ai pas le droit de rentrer. Sont un peu trop blancs pour te soigner. Si j'ai plus le cœur à t'attendre, c'est que j'ai plus le cœur en entier. Tu me dis ne t'approche pas lorsque tu pleures. Tu me dis regarde tout en bas, que tu aimerais prendre de la hauteur. Tu me dis que tu t'aimes passer. Et si tu casses, je viendrai te réparer.
Vous Vous écoutez De Vive Voix sur RFI. Avec nous aujourd'hui, Jennifer Lesage-David, metteur en scène de la pièce Tellement Sympa, une pièce qui donne à voir l'enfermement que provoquent les violences conjugales, qui donne à voir les mécanismes d'emprise qui sournoisement se mettent en place autour des personnages. Deux amies de longue date, Sohan et Béatrice, toutes les deux femmes sourdes, s'appellent pour en parler, discutent, tente de trouver des solutions entre elles. Béatrice, d'un côté, raconte ce qu'elle vit. Sohan, elle, n'en croit pas ses yeux. Et les yeux de Sohan, justement, sont un outil puissant, partie entière de son jeu d'actrice. Voilà ce qu'en disait Olivier Marchal.
Le plus dur, dès votre petite enfance, on vous a toujours dit « pointer du doigt, c'est mal poli ». Donc il faut aller. Et notre culture judéo-chrétienne aussi, notre corps est quelque chose de sacré. Alors que la langue des signes, on le se montre. Je peux très bien vous parler, là je vous parle mais sans vous regarder, alors que la langue des signes, il faut se regarder. Beaucoup de problèmes chez les nouveaux arrivants en langue des signes, les lycéennes qui commencent à 15-16 ans, même les lycéens, il y a le regard du corps, les autres vous regardent. J'apprends beaucoup de choses en me regardant aussi, en regardant les autres. Donc c'est vraiment des fois une barrière, mais qu'on arrive vite à briser en jouant, en désacralisant le corps et en montrant justement que c'est une langue, vous l'avez dit au début, hein, on parle avec les mains et on écoute avec les yeux. Les sourds n'entendent pas, donc leur regard forcément s'est développé d'une façon importante. Donc, à la fois dans le sens où je peux regarder sur le côté sans forcément regarder si les voitures passent à côté de moi, je les entends pas, donc je les discerne. Mais aussi, ça c'est ma maman qui me l'a appris, ça. Elle arrivait à voir dans mes amis s'ils étaient bons ou pas bons, s'ils étaient sympas ou pas. Et quand je mentais aussi, elle savait. Ce regard est important parce qu'ils ont développé un regard qui permet de lire et d'identifier des choses qui sont
c'est
de là du mot.
C'est presque un sens supplémentaire.
Oui, tout à fait. Par justement ces mimiques, etc. On arrive à voir, à percevoir d'autres choses, oui.
Olivier Marchal au micro de Chantal Laureau sur RFI. Petite question, Jennifer Lesage-David. Vous aussi, vous arrivez à voir dans les yeux si les gens mentent ?
Oui, ça m'arrive, oui. Mais j'avoue qu'Emmanuel est très, très forte pour ça, ouais. Emmanuel, effectivement, le cerner les gens, elle a quelque chose de très intuitif.
Vous avez donc travaillé spécifiquement, je suppose, le jeu du regard dans la pièce. Comment est-ce que ça s'est passé avec vos deux comédiennes qui signent ?
Alors, c'est vrai qu'on a commencé le travail uniquement en langue des signes. Toutes les trois au plateau, parce qu'il fallait que je teste mon dispositif pour voir s'il était opérant. Donc c'était des questions de positionnement et qu'elle développe à fond, qu'elle s'appuie à fond sur leur vision périphérique. Et puis qu'elles aient une mémoire aussi, une mémoire du jeu de leur partenaire pour pouvoir... jouer avec cette mémoire et avec cette vision périphérique, parce que la vision périphérique, elle permet de capter le mouvement, mais pas de voir les expressions du visage dans le détail. Donc c'était un travail vraiment d'abord très technique, et ensuite on a plus travaillé la psychologie, le jeu, la finesse.
Il y a aussi, donc, on l'a dit en début d'émission, deux autres comédiennes qui incarnent comme le dédoublement des deux personnages sur scène, qui font leur voix off et qui doivent suivre leur partenaire sourde. Comment est-ce qu'elles ont travaillé entre elles ? Comment est-ce que les duos ont fonctionné ?
Alors, effectivement, j'ai l'immense plaisir de travailler avec Virginie Lazillier et Isabelle Lelièvre, qui sont deux comédiennes talentueuses, puisque j'avais besoin de travailler avec des comédiennes et pas des interprètes de langue, mais vraiment des comédiennes, parce qu'il y a un travail, il y a une implication émotionnelle. J'ai voulu qu'elles soient debout au plateau, même si on ne les voit pas, pour qu'elles aient une implication corporelle, qu'elles fassent corps avec les comédiennes sourdes. Donc c'est d'abord passé par un travail technique aussi, pour travailler sur le rythme des deux langues, puisqu'elles n'ont pas le même rythme, avec des rendez-vous. Donc d'abord très technique dans les placements, dans les espaces, pour être toujours en connexion directe avec
son
double.
Il faut se voir.
Voilà. Et ensuite, une fois que la technicité était bien imprégnée dans la mémoire corporelle, là, on a travaillé la psychologie des personnages, les émotions, les intentions, le rythme, tout ça.
Vous n'impliquez pas d'autres personnages dans la conversation entre Sohan et Béatrice, à part les gens qu'elle cite, bien sûr, mais les conversations restent strictement entre elles, ce qui donne l'impression que ces deux copines sont seules à supporter le poids du secret. Ce cocon entre les deux femmes, cette amitié, elle a quelque chose de réconfortante, c'est un endroit safe pour se confier, mais il est aussi limitant, peut-être à l'image, dites-moi si je me trompe, de la communauté sourde, un monde qui est soudé, qui protège, mais qui peut enfermer aussi, d'une certaine façon.
Oui, j'ai fait le choix de... Bon, déjà, moi, je suis biculturelle, je suis sourde de naissance, pas profonde, hein, sinon je... Enfin, voilà, je
Quand
suis,
vous
je...
dites pas profonde, ça veut dire vous êtes demi-sourde.
Oui, voilà, exactement, je suis demi-sourde. Et voilà, mon engagement pour la culture sourde, la langue des signes, qui sont vitales pour moi et vitales pour les sourds, c'était important pour moi d'écrire et de placer mon histoire dans la communauté sourde, parce qu'effectivement, dans la communauté sourde, où tout le monde se connaît, je me suis rendu compte que le tabou sur la violence conjugale était très fort, il y avait vraiment une omerta, et c'était très difficile pour les femmes sourdes de libérer cette parole, donc c'est une prise de conscience collective que je voulais, à laquelle je voulais participer. Et pardon, j'ai perdu votre question.
J'allais dire votre la relation entre Béatrice et Soane, qui n'ont que l'une et l'autre pour se confier, était symbole aussi de la communauté sourde dans laquelle on ne peut pas forcément s'exprimer à l'extérieur et c'est limitant. Je voudrais rebondir justement sur une phrase que dit Béatrice, qui alerte Soane des violences qu'elle vit dans son couple. Son partenaire est sourd également et elle dit « Il est apprécié professionnellement et par la communauté, personne n'osera le mettre en question ». Elle rajoute, il vient d'une famille sourde et militante en plus, qui a beaucoup œuvré pour la cause. Donc elle le voit comme quelqu'un d'intouchable et elle ne sait pas où trouver de l'aide parce que tout le monde l'aime.
Oui, 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 c'est juste, mais ça existe dans d'autres milieux. Hein. On l'a vu avec tout ce qui se passe dans l'univers du cinéma. Il y avait aussi cette omerta, il y avait aussi ces intouchables. Donc c'est un sujet qui est universel et transposable. Après, ce qui est important aussi par rapport à la communauté sourde, c'est que ces femmes sourdes, si elles veulent aller porter plainte au commissariat, elles sont obligées d'avoir un interprète avec elles. Et ça, il n'y a pas de... C'est pas organisé, il n'y a pas de prise en charge, il n'y a pas d'automatisme. Donc elles sont quand même... Elles ont quand même des obstacles supplémentaires à franchir pour que leurs paroles soient reçues, entendues et défendues.
J'allais dire justement, je suis tombée en préparant cette émission sur un clip de sensibilisation fait par l'association Femmes Sourdes Citoyennes et Solidaires, qui pose la question de ces femmes sourdes victimes de violences. Un clip qui est réalisé par Delphine Labesse et Sandrine Herman, ça s'appelle Porter plainte. On y voit une femme sourde qui souhaite donc enregistrer sa plainte devant deux policiers qui ne comprennent pas la langue des signes et qui la regardent avec une forme d'exaspération, de ne rien comprendre, une forme de mépris aussi. Alors la victime, qui est incarnée par l'actrice Ariana Rivoire, n'a plus le choix que de mimer la scène qu'elle a vécue en se tirant les cheveux, en mimant les coups reçus, en mimant un viol. Est-ce qu'on en est encore à ce point-là, Jennifer Lesage-David, aujourd'hui, lorsqu'une femme sourde veut porter plainte, elle est obligée de faire revivre de cette façon physique pour se faire comprendre?
Ce court-métrage est un très bon outil de sensibilisation. Effectivement, l'association Femmes Sourdes Solidaires et Citoyennes fait un travail remarquable. Ça fait 20 ans qu'elles sont engagées à titre bénévole et qu'elles s'épuisent. Vraiment, c'est impressionnant. Elles ont aucune aide. J'étais en Suède il y a pas longtemps dans la communauté sourde suédoise où il existe une maison pour femmes où il y a 4 salariés où ils ont des financements. En France, c'est pas le cas. Il y a aucune aide. Elles sont seules. Elles sont bénévoles. Elles s'épuisent. Enfin, c'est vraiment dramatique. Et effectivement, la place de la langue des signes en France n'est pas du tout... il y a eu la loi de 2005 sur l'égalité des chances. Et il y a du progrès, hein, bien sûr. Je ne veux pas être trop pessimiste. Mais quand même, il y a un retard encore énorme, notamment dans l'éducation, sur le choix d'une éducation bilingue. Il n'y a que 4 villes en France où on peut suivre une éducation bilingue de la maternelle jusqu'au bac. Donc ce choix n'est pas encore réel, puisqu'en fonction du lieu d'habitation, on ne peut pas faire ce choix. Le téléphone, le relais téléphonique, En Amérique, c'est un service gratuit, disponible 24 heures sur 24. En France, c'est payant, c'est cher. Enfin voilà, il y a encore beaucoup d'endroits où on est en retard, où les citoyens sourds ne sont pas à égalité face à l'information, face à la possibilité de s'exprimer, face à la possibilité de se former. Donc oui, la langue des signes n'est pas encore à l'endroit où elle devrait être. Et c'est dommage.
Dans votre pièce, on voit justement Béatrice qui appelle à l'aide. Elle compose un numéro, le 114, un numéro d'urgence qui est gratuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 également, avec toutes les latences qu'il peut y avoir. Et nous, spectateurs, on est impuissants devant un échange qui est très compliqué entre Béatrice et son écran. On la voit qui tape frénétiquement sur son téléphone des mots alarmants et qui se heurte à la lenteur, aux soucis techniques du numéro de prise en charge. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, des femmes, justement, perdent la vie parce qu'elles n'ont pas été secourues plus tôt, car la police n'a pas pu intervenir à temps. D'ailleurs, depuis le 1er janvier, ici en France, 31 femmes au moins ont été tuées par leur compagnon ou leur ex-compagnon, selon le collectif Nous Toutes. Qu'est-ce qui manque, selon vous, Jennifer Lesage-David, pour qu'on puisse enfin faire diminuer ce chiffre ?
Alors, le 114 fait un travail remarquable et heureusement que...
Oui, c'est vrai qu'on pourrait dire un mot de son fonctionnement.
Heureusement que ce aussi. Service existe. D'ailleurs, il ne s'adresse pas qu'aux sourdes, hein, il s'adresse à toutes les femmes qui ne sont pas en possibilité de parler.
De parler, oui.
Et pendant le confinement, ils ont été vraiment submergés d'appels, puisque c'est un service qui permet d'appeler au secours, soit par SMS, soit par visio. Voilà, donc c'est quand même un service extrêmement important et indispensable. Voilà.
Est-ce qu'il existe un signe en LSF pour exprimer féminicide ?
Oui, voilà.
Donc c'est le signe... Ça, c'est homme ?
Ah non, c'est femme.
C'est femme. C'est le signe femme et ensuite le verbe tuer.
Oui.
C'est ça. On parlait avant, en langue française écrite et orale, de crimes passionnels, de disputes amoureuses qui a mal tourné, avant que la langue évolue et qu'on invente ce mot féminicide. Est-ce que la LSF aussi évolue sur ces questions-là en même temps ? Est-ce que le signe a changé pour parler de ce phénomène ?
Récemment, pas à ma connaissance, mais la langue des signes est une langue vivante, donc elle est en constante évolution comme toutes les langues. Voilà, il y a une étymologie des signes, il y a différents registres de langue, il y a la langue soutenue, il y a l'argot, il y a des arts sourds. Donc oui, et puis après, il y a aussi, comme dans la langue française, des nouveaux mots qui apparaissent, il y a des nouveaux signes qui apparaissent constamment.
Comment ça se passe d'ailleurs quand l'actualité impose un nouveau signe ? Qu'est-ce qui décide ?
C'est collectif, c'est-à-dire c'est ceux qui en ont en premier besoin, qui en ont l'usage en premier, qui vont faire une proposition. Et si le signe est reproduit et se diffuse, c'est une forme de validation communautaire.
Un chiffre peut-être à rappeler, on approche tout doucement de la fin de cette émission, un chiffre que vous inscrivez deux fois à la fin du spectacle. 80% des femmes handicapées ont été victimes de violences. Près de 80% des femmes handicapées sont victimes de violences. Vous le répétez comme si il était absolument incroyable. Et demain, Jennifer Lesage-David, 8 mars, journée internationale de lutte contre les droits des femmes. Les femmes et les hommes, tout le monde, on espère, descendra dans la rue. Est-ce que vous en serez ?
Bien sûr. Et puis le spectacle joue, donc ce spectacle, c'est un engagement, c'est une prise de conscience collective. Donc voilà. Et puis il y a aussi les femmes et les enfants.
Merci beaucoup, Jennifer Lesage-David.
Merci.
La pièce tellement sympa est à découvrir à l'IVT, l'International Visual Theatre, à Paris, jusqu'au 16 mars. À demain sur RFI.